Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Elles sont jolies parfois, mais souvent redoutables. Les plantes envahissantes perturbent les écosystèmes et menacent la biodiversité. La France est l'un des pays d'Europe les plus touchés, et face à ce fléau, on pense souvent lutte chimique, arrachage ou résignation. Mais on peut les voir aussi comme une opportunité, car certaines ont un pouvoir insoupçonné. Elles dépolluent sols et eaux en absorbant les métaux qu'ils contiennent. Et ces métaux, on peut aussi ensuite les réutiliser. L'art de transformer une nuisance écologique en ressource utile, c'est le pari qu'a fait la chimiste Claude Grison, chercheuse au CNRS, membre de l'Académie des sciences et lauréate du prix d'inventrice européenne de l'année en 2022. Nous avons la chance de la voir dans notre studio aujourd'hui, car nous sommes mardi, et le mardi, c'est le jour de l'Académie des sciences à l'Institut. Donc on en a profité pour vous faire venir. Bonjour à vous, Claude Grison.
Bonjour.
Alors, on va prendre le temps aujourd'hui de bien comprendre ce que vous avez mis au point. Et l'histoire commence, non pas dans un laboratoire, mais dans la nature, plus précisément auprès d'un certain type de plantes. Je parlais de plantes envahissantes à l'instant. Pourquoi
on les appelle comme ça ? Alors, pourquoi ? Je m'intéresse beaucoup aux plantes d'un point de vue général. Je les trouve fascinantes. Je trouve qu'elles ont des capacités d'adaptation, c'est remarquable. Soit dans le cadre de pollution qu'on a engendrée, et elles s'adaptent au stress auquel on les soumet. Et puis elles arrivent à survivre, à trouver des stratégies assez impressionnantes pour se développer. Parfois même, elles extraient la pollution et la confinent. Et puis, à d'autres endroits, notre maladresse ou la naïveté humaine nous a conduits à les disperser en dehors de leur habitat naturel. Et parfois, elles deviennent effectivement envahissantes.
Quelles sont les conséquences de ces plantes envahissantes ?
Alors, les espèces exotiques envahissantes, d'un point de vue général, sont une des cinq grandes causes du déclin de la biodiversité. Donc, c'est une véritable catastrophe environnementale et écologique. Économique également, parfois on l'oublie, plus de 500 milliards par an en fait en termes de conséquences, donc c'est vraiment dramatique. Et puis bien sûr, dans les endroits où elles prolifèrent, elles étouffent complètement la biodiversité qui est déjà malmenée par le réchauffement climatique, la pollution ou la surexploitation des ressources naturelles.
Vous l'avez dit, elles étouffent les autres plantes, elles rendent les voies pas navigables. Mais d'où est-ce qu'elles viennent
Alors c'est vraiment l'homme qui est responsable de cette situation, qui a facilité leur installation en dehors de leur habitat naturel, soit parce que tout simplement il les trouvait belles, il les a ramenées dans son jardin, dans des espaces où elles n'ont rien à faire, dont elles ne sont pas originaires.
On peut donner un exemple par exemple
Par exemple la renouée du Japon, qui est quand même très connue, puisqu'elle est parmi les plus envahissantes au monde, très présentes en Europe et particulièrement en France. Beaucoup connaissent cette plante. On l'a fait venir typiquement en Europe parce qu'on la trouvait belle. On lui a même donné le prix d'une plante ornementale. Donc elle a des inflorescences effectivement très jolies. Elle attire les abeilles deux fois par an. Ça peut paraître très intéressant. Mais malheureusement, son développement est complètement incontrôlé, anarchique. Elle est en train de se développer dans les zones humides. Qui pourtant sont extrêmement importantes à l'heure actuelle. On parle beaucoup de leur capacité à réguler les extrêmes climatiques. L'été, quand il fait si chaud, les zones humides sont importantes pour tempérer les températures. Ou plutôt en automne, par exemple, quand il pleut beaucoup, qu'il y a des périodes d'inondation, elles absorbent aussi la quantité d'eau excédentaire. Donc ces zones humides sont très précieuses. On dit qu'elles disparaissent trois fois plus vite que nos forêts. Elles sont polluées, asséchées et en plus envahies par ces espèces qui sont devenues complètement indésirables.
Et vous, ce sont précisément ces zones humides qui vous ont intéressé ?
Alors l'histoire est un petit peu plus compliquée, c'est que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui permet en fait de restaurer ou de préserver les écosystèmes qui sont dégradés et pollués. Mmh. Et puis de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressée à la restauration des sols, à la dépollution de l'eau, et j'ai appris à connaître par hasard l'existence de ces plantes envahissantes. Mmh. Parce qu'elles ont montré des aptitudes imprévues pour dépolluer des systèmes aquatiques.
C'est ça, vous avez vu dans ces plantes envahissantes une véritable opportunité. Expliquez-nous un peu, c'est quoi leurs propriétés spécifiques à ces plantes-là ?
Oui, donc j'ai commencé par le milieu aquatique, où je continue toujours, où je me suis rendu compte qu'en fait, ces plantes avaient souvent un système racinaire extrêmement bien fait. Et c'est là où l'interdisciplinarité importante, c'est-à-dire naviguer entre l'écologie et la chimie, c'est qu'en étudiant ces plantes qui survivaient parfois dans des eaux qui étaient relativement polluées, où la vie est un peu difficile pour une plante aquatique normale, donc native de l'endroit où elle est, eh bien, ces plantes-là arrivaient à se développer avec beaucoup de dynamisme. Et puis, en regardant bien, on se rend compte que finalement, elles ont un système racinaire qui est tellement bien fait qu'elles arrivent à se nourrir dans des eaux où il y a relativement peu d'éléments nutritifs. Mais elles ont une capacité à capter les éléments nutritifs qui est assez extraordinaire, en particulier quand il s'agit d'éléments métalliques.
C'est ça.
Voilà. Par exemple, elles ont des feuilles très vertes, très belles. Ça traduit la chlorophylle dans ces feuilles. Et dans la chlorophylle, il y a du magnésium. Eh bien, ces plantes arrivent à le capter avec une efficacité qui est assez sidérante. Mmh. Et ça s'explique à l'échelle très fine de la molécule, donc de la chimie. Ce qui nous a permis de détecter qu'elles avaient un atout. Voilà, une structure racinaire très efficace, elle se nourrissait plus efficacement que d'autres, mais ça voulait dire que mortes, eh bien réduites en poudre, elles allaient garder leur structure moléculaire, qui est très fine, c'est l'échelle du nanomètre, et qu'on allait peut-être pouvoir utiliser cette propriété pour capter non plus des éléments nutritifs, mais des éléments polluants. Mmh. Et c'est ce qui s'est avéré.
Parce que dans ces zones-là, ces plantes peuvent séquestrer, vous avez dit, des éléments nutritifs. Elles séquestrent aussi des éléments, enfin, parmi ces éléments nutritifs, des éléments métalliques qui sont toxiques ou non toxiques, c'est ça ?
C'est ça, effectivement. Pour une plante, faire la différence entre un élément nutritif ou toxique est quelque chose de bien compliqué.
Oui.
Donc parfois, s'il y a des propriétés chimiques voisines, similaires, elles vont capter avec la même efficacité l'élément métallique, minéral, qui n'est pas toujours nutritif, qui peut effectivement être un polluant.
Et on peut donner des exemples de polluants, par exemple, que ces plantes sont capables de capter ?
Alors, selon la nature des plantes, parce qu'il y a une certaine spécificité, on arrive à capter, par exemple, des éléments qui sont très toxiques pour la vie aquatique, comme le cuivre, qu'on utilise beaucoup dans le vignoble, par exemple. C'est un exemple rapide. Et voilà, elles vont le capter avec beaucoup d'efficacité. On s'est rendu compte que certaines le faisaient naturellement. Alors, s'il y avait un tout petit peu de manganèse dans l'eau, le captait avec un degré d'efficacité remarquable. Et puis, plus récemment, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient capter des éléments stratégiques qui font vraiment défaut, notamment en Europe et en France tout particulièrement, le palladium, qui est plus cher que l'or, qui est extrêmement précieux dans l'industrie pharmaceutique. Eh bien, elles peuvent le capter de façon hyper efficace. Et donc, ça donne des opportunités pour développer des techniques de recyclage et métaux stratégiques. Mais en gardant l'idée, on a le droit de se permettre de ce type de vision et de valorisation si on a une action écologique sur le terrain positive. D'où l'idée d'apprendre à les récolter massivement pour diminuer leur impact dans la nature et à les rendre utiles mortes, donc sous une forme inoffensive.
Parce qu'une fois que ces plantes ont absorbé ces métaux qui sortent de l'eau, du sol, elles-mêmes, ces plantes, elles deviennent saturées en métaux toxiques ou non toxiques. Qu'est-ce qu'on va en faire ?
Alors voilà, très bonne question, elle est importante. Vous ne voulez pas générer de nouveaux déchets contaminés ? C'était hors de question pour nous. Bon, je citais le cuivre qui est très utile, on le voit, je pense qu'il y en a déjà qui essaient de s'accaparer du cuivre d'une façon un petit peu illicite. On voit l'intérêt du cuivre dans la vie quotidienne. Le palladium, j'ai cité très rapidement. Bon, il est indispensable pour construire un médicament sur trois, si on fait une étude sur les dernières années. Donc en fait, ces poudres végétales qui se sont gorgées de métaux ont une utilité. Ça devient ce qu'on appelle des catalyseurs en chimie.
On va peut-être expliquer ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était en tout cas.
Voilà, alors en fait, il faut prendre la définition du terme catalyseur en chimie au sens commun du terme. Un petit peu comme, quand on travaille dans un projet collectif qui est un petit peu compliqué, qui n'avance plus, puis tout d'un coup, il y a une personne dans le groupe qui a une très bonne idée, l'idée qui va enfin faire décoller ce projet. On dit que c'est un catalyseur. Mmh. En chimie, c'est exactement pareil. Vous pouvez mélanger des tas de molécules ensemble en attendant des miracles, il ne se passe pas grand-chose, jusqu'au moment où vous ajoutez le catalyseur, qui peut être ce fameux palladium ou ce cuivre, qui vont apporter l'énergie qu'il faut aux molécules pour qu'elles puissent enfin réagir ensemble et construire une nouvelle molécule d'intérêt.
Le catalyseur va accélérer le processus, la réaction chimique.
Exactement, il va l'accélérer.
Parce que sans eux, comme vous le disiez, les réactions ne sont
pas
rien. Voilà, il se passe rien, ou alors c'est
elles sont infiniment lentes, c'est complètement inintéressant.
Et ces catalyseurs-là, en fait, on les utilise absolument partout. Enfin, dans la chimie, dans la médecine, dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, on les utilise partout. Et
effectivement, c'est un des catalyseurs les plus répandus pour faire en fait des tas de matériaux ou médicaments ou autres qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Malheureusement, ils sont d'origine minière. Mm. Voilà. Et qui dit donc extraction minière dit impact environnemental colossal, donc pour produire ce catalyseur. Alors que là, on a des plantes qui peuvent faire ce travail, aller récupérer des aimants métalliques, non pas dans une mine où on va tout détruire, mais dans une eau qui est contaminée, donc on va pouvoir purifier. Et on va bénéficier du recyclage de ces métaux.
Et c'est pour ça que vous appelez ça des éco-catalyseurs, des catalyseurs écologiques, parce qu'ils ont une empreinte carbone qui est beaucoup...
Oui, parce qu'ils ont vraiment à l'origine, et c'est vraiment pour ne pas l'oublier, volontairement une action écologique. On va dépolluer l'eau, on va restaurer un sol, et c'est grâce aux plantes qu'on va retirer ces métaux de la nature. Mmh. Donc on va rendre un service à la nature, à la biodiversité.
En fait, la démarche que vous nous décrivez, elle présente un double intérêt. On décontamine les sols et on va recycler ensuite les métaux lourds pour créer de nouveaux produits.
Voilà. En essayant d'avoir une démarche qui est très optimisée, qui réduit l'empreinte environnementale de ce qu'on fait classiquement en chimie. Ouais. C'est la condition évidente.
Ça m'a un peu fait penser à la devise de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme.
Oui, c'est aussi une question de cohérence entre la démarche. On veut résoudre un problème écologique, il est hors de question d'en créer un quand on valorise une plante qui a dépollué.
Vous êtes la première chercheuse à avoir découvert le potentiel de ces métaux lourds récupérés dans ces plantes ?
En chimie, oui. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert, grâce à des collègues en écologie, le potentiel de certaines plantes, notamment c'était dans le sol à l'époque, qui pouvaient donc séquestrer des métaux. J'étais vraiment, agréablement surprise, même sidérée par la capacité de ces plantes à survivre et à extraire ces métaux. Je trouvais ça génial. Je voulais en faire quelque chose d'utile. Mais la question n'était pas facile. Et j'ai bénéficié d'une erreur, c'est important les erreurs, d'un collègue qui était américain à l'époque, qui était agronome, très doué pour développer ces plantes qui peuvent aller capter des éléments métalliques dans le sol, là c'était le nickel, et qui a voulu valoriser. Il a voulu valoriser ces plantes en faisant du nickel métallique. Mais son schéma économique était très compliqué. Mmh. Il imaginait donc pouvoir remplacer le nickel qui venait de la mine dans des applications de type métallurgique. Ce qui était un leurre complet. Il lui fallait des surfaces extrêmes, très importantes de développement de ses plantes pour avoir assez de nickel et en faire une activité économique. Puis il lui fallait du nickel pur, qui n'était pas sous la bonne forme telle que la plante nous présente. Donc en fait, il avait une empreinte environnementale colossale et un modèle économique qui ne tenait pas la route. Donc ça m'a beaucoup servi à réfléchir aux erreurs qu'on pouvait faire en termes de valorisation. Et puis parallèlement, donc si l'écologie me passionnait, j'avais aussi mon métier de chimiste qui me permettait de bénéficier d'autres informations. Et en France, on a ce qui s'appelle le PIPAM, qui a beaucoup travaillé pour anticiper les mutations économiques et qui, à la même époque, faisait valoir l'état critique de ressources minérales au niveau mondial, dont le nickel, mais surtout à l'époque le zinc, qui était en voie de raréfaction. Et j'étais en train d'étudier une plante qui se développait sur un site minier pollué au zinc, qui extrayait le zinc avec des performances inouïes. Et je voyais là une opportunité pour remplacer ces ressources minières à base de zinc, mais pour en faire de la catalyse avec une chimie donc que je qualifie aujourd'hui de durable, c'est-à-dire qui maîtrise son empreinte environnementale.
Et tout ça, vous avez commencé ça quand ça remonte à...
Alors maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années. Donc c'était... C'est une histoire que j'aime bien parce qu'elle est due à mon autre métier à l'époque. C'était que j'étais professeure à l'université, pas simplement chercheur. Et j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes qui se posaient déjà la question. Et à 20 ans, c'était vraiment une question pionnière. Peut-on dépolluer avec des plantes ? On a réfléchi ensemble avec quatre jeunes étudiantes qui voulaient en faire un sujet de concours à l'opportunité de ce que les plantes nous donnaient comme possibilité pour dépolluer. Et j'ai découvert donc cette fameuse plante qui était capable de survivre sur un site minier pollué et qui accumulait le zinc. Et donc pendant un an, Donc, j'ai essayé de mieux comprendre comment fonctionnait cette plante et très vite, c'est posé le problème de « mais que peut-on en faire ?» Voilà. Et donc, ça a été source de réflexion face à des questions critiques. Pour certains collègues, et ben, des plantes qui accumulent le zinc, ce sont des plantes dangereuses, des feuilles contaminées qu'il ne faut surtout pas développer. Et moi, je trouvais que c'est une solution naturelle assez inouïe pour restaurer un sol pollué. Mais il fallait trouver une idée de valorisation. Il ne fallait pas que ces feuilles chargées en zinc meurent, tombent sur le sol et laissent la pollution se rétablir.
Et repollue ensuite.
Voilà, donc ça a mis du temps, un an de réflexion sur ce qu'on pouvait en faire d'utile et de cohérent. Et c'est là où donc la catalyse au zinc, qui nécessite très peu de zinc pour faire beaucoup de molécules, m'est apparue comme une idée possible. Mais à condition de revisiter, de repenser la catalyse au zinc. Comment utiliser ces feuilles chargées en zinc pour construire des molécules utiles, d'intérêt, pour la santé par exemple, mais voilà, en pensant à une chimie qui saurait vraiment avoir un impact environnemental le plus réduit possible.
Mais c'est ça qui est très intéressant dans votre parcours, Claude Grison, c'est que vous ne vous cantonnez pas à la théorie, à la recherche, c'est que vous êtes derrière plusieurs entreprises pour mettre en application vos découvertes à l'échelle industrielle. L'entreprise qui est peut-être la plus connue, c'est Bioinspire.
Alors Bioinspire, laboratoire bioprotection, c'est une autre aussi qui développe de jolies choses qui sont inspirées de la nature. Donc l'idée, effectivement, en tant que chercheur, quand on découvre quelque chose qui peut rendre un service à la société, c'est d'accompagner ces résultats le plus loin possible. Pour moi, c'est ce qui est le plus motivant dans mon métier, c'est de montrer qu'on peut être utile à un petit quelque chose et de l'accompagner. Hein. Si on attend quelqu'un le fasse à sa place, ça peut durer longtemps. Donc c'est d'accepter de franchir le pas et puis jusqu'à la création d'entreprises avec des associés qui ont des compétences qui complètent les miennes, mais voilà, de m'investir également dans ce développement. Je trouve que ça donne beaucoup de sens au travail et c'est ce que j'appelle à être un chercheur citoyen, c'est-à-dire assumer ses recherches, se donner une chance en fait que elle soit utilisée par ailleurs.
Et j'avais lu, dites-moi si c'est ça, c'est le CNRS est entré au capital
des deux sociétés que j'ai citées. Effectivement, c'était une première et ça a été quelque chose de formidable pour moi, puisqu'effectivement le CNRS est rentré au capital pour la première fois d'ailleurs dans la société Bioinspire, évidemment en prenant de toutes petites parts, mais c'est très symbolique. C'est-à-dire que le CNRS aussi accompagnait cette démarche, donc c'est quelque chose qui était nouveau et qui était extrêmement motivant pour moi et également rassurant. Je restais un petit peu dans mon milieu d'origine aussi.
Et ce nom-là, Bioinspire, c'est un clin d'œil à la bio-inspiration, c'est ce que vous faites, c'est tout ce dont on a décrit
Complètement. Je pense qu'une démarche qui s'inspire de la nature est extrêmement intéressante, très motivante. Ça permet peut-être d'être moins naïf sur le développement d'une nouvelle technologie. C'est essayer de mieux comprendre comment fonctionne la nature pour la préserver, voire la restaurer, et trouver des idées qui ont été éprouvées par la nature elle-même, c'est-à-dire qui sont conçues sur le long terme. Donc c'est à la base de tout ce qu'on développe au laboratoire.
Et je me suis demandé, parce que je ne connaissais pas ce terme bio-inspiration, mais j'avais déjà entendu parler de biomimétisme, qui n'est pas la même chose. Le biomimétisme, c'est quand on imite la nature.
Voilà, donc c'est ce que j'aime pas trop, en fait. Je trouve qu'on est très prétentieux, très arrogant si on pense qu'on est capable de mimer la nature, parce qu'on comprend très peu de choses en la nature, il faut être honnête, et assez pragmatique, on est très naïf, on a, je dirais, un début de compréhension de petites choses, mais il y a encore tout un champ d'investigation qui nous échappe complètement. Donc je trouve que mimer la nature est quelque chose qu'on ne peut pas prétendre être capable de faire. Il faut avoir un petit peu plus d'humilité, et puis de dire qu'on essaie de s'inspirer de ce qu'on a compris du fonctionnement de la nature, avec aussi tout ce qu'on n'a pas encore compris malheureusement.
Oui, donc avec vous, ça sera bio-inspiration. Vous l'avez déjà dit un peu tout à l'heure, mais avec quel partenaire vous travaillez dans le cadre de ces deux entreprises-là? C'est pour quoi faire? Pour reproduire quoi?
Alors, au-delà du CNRS qui m'accompagne beaucoup dans toutes ces démarches, je travaille avec le start-up studio Technofounders qui m'a aidé à créer Ebioinspire et Laboratoire Bioprotection, dont on a moins parlé, mais qui fait aussi de belles choses pour se protéger contre les maladies vectorielles. Donc avec à nouveau des solutions inspirées de la nature, qui m'a aidé à mettre sur le marché des agents répulsifs contre les moustiques qui véhiculent ces maladies infectieuses dont on parle de plus en plus en France, la dengue, chikungunya, dont les cas explosent en France, qui font vraiment partie de sujets de préoccupation, et des tiques qui posent des problèmes similaires. Donc on s'est inspiré du langage de la nature, de la communication qu'il y avait entre un insecte et une plante dans la nature, qui est très subtile, très précis, qu'on essaie de mieux comprendre pour savoir comment on pourrait interférer avec ce que ressentait un moustique ou une tique. Et puis ça nous a permis d'élaborer un mélange de composés complètement naturels que ressentait très fortement le moustique, tellement fortement que c'est une odeur qu'il déteste et on le fait fuir.
Ah oui. Donc en fait, vous avez reçu plein de récompenses. Dans l'introduction, je disais que vous étiez l'inventrice européenne de l'année en 2022. Et vous avez deux casquettes, celle de chef d'entreprise et de chercheuse scientifique. Aujourd'hui, laquelle vous portez le plus, laquelle vous préférez?
Je reste chercheur, ça c'est sûr, mais un chercheur qui ne se donne pas de limites, voilà, qui est curieux, curieux de science, curieux d'apporter de nouvelles connaissances, mieux comprendre la nature, mieux comprendre l'impact que nous avons sur la nature, qui essaie de trouver des solutions les moins naïves possibles, et puis si c'est nécessaire, de les accompagner auprès d'entrepreneurs qui vont m'aider à les développer, à les mettre sur le marché. Mmh. Mais je reste chercheur avant tout.
Puisque vous combinez économie et écologie dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous pensez de... Aujourd'hui, on parle beaucoup de décroissance. Qu'est-ce que vous pensez de...
Alors, je suis pas sûre qu'il soit bien approprié, puis c'est très négatif. Moi, ce que je revendique, c'est effectivement une démarche qui arrive à combiner écologie, respect de la biodiversité et puis développement économique, mais d'une façon un petit peu différente. Je suis une adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie symbiotique ou régénérative qui commence à avancer, à porter ses fruits en termes de réflexion pour montrer qu'on peut développer une activité économique en respectant la biodiversité et les équilibres biologiques et écologiques. C'est tout à fait possible. C'est simplement une question de raisonnement, d'approche et de maîtrise en fait de la démarche, dont le seul objectif n'est pas de faire du profit, c'est simplement de créer une activité durable.
Dernière question, Claude Grison. On a tendance à associer chimie à toxicité. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était l'association que je faisais. Aujourd'hui, on peut parler d'une chimie verte. Vous utilisez ce terme ou pas vraiment ?
Oui, mais je trouve qu'on va plus loin. La chimie verte a été un courant très intéressant qui a permis de définir des principes pour que la chimie réussisse à maîtriser donc son empreinte environnementale. C'est un guide. Mais pour moi, la chimie peut être beaucoup plus ambitieuse que ça. Je parlais de chimie durable qui me semble aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire une chimie qui va savoir résoudre des problèmes environnementaux. C'est un petit peu ce que j'expliquais quand on voit qu'une plante envahissante a finalement, même morte, des capacités de dépollution. Donc, ça va très loin dans une implication environnementale, voire écologique. Ça répond à une demande sociétale. Ça répond également à un modèle économique viable. Donc, c'est tout ça, la chimie durable. Et puis, ce que j'essaie de montrer tous les jours, c'est qu'il faut arrêter d'opposer de façon un petit peu simpliste, justement, chimie et environnement. Oui. Parce que la chimie, c'est simplement une discipline scientifique qui essaie de comprendre le vivant à l'échelle de la molécule. Et c'est aussi une connaissance dont on a besoin pour préserver, voire restaurer la biodiversité.
Cette chimie durable, elle paraît absolument révolutionnaire, mais j'imagine qu'elle a un coût, elle coûte plus cher que les procédés.
Alors non, ça c'est mon travail quotidien, c'est de montrer que non. Au contraire, on a parfois des éco-catalyseurs qui nous permettent de développer des procédés qui, d'un point de vue économique, peuvent être beaucoup plus avantageux en fait, que les systèmes conventionnels et classiques. La différence, c'est qu'ils sont plus récents, donc on a un petit peu besoin de temps pour les optimiser. Mais si on les réfléchit en analyse de cycle de vie, ils peuvent être extrêmement compétitifs d'un point de vue financier.
Et la demande est là ou il faut que les... entreprises, que le monde, à côté, prennent connaissance de ces éco-catalyseurs.
Alors, on n'est pas dans une époque très facile, il faut le reconnaître. Je pense qu'il y a 3-4 ans, le contexte général était plus enthousiaste. Aujourd'hui, on est dans une période de doute, de frilosité, d'un monde assez perturbé, de contre-vérité, de déni de la science, donc qui ne rend pas service à ces technologies qui sont nouvelles, qu'il faut essayer de comprendre pour en voir tout le potentiel. Ceci étant, quand on est chercheur, on a le devoir de démontrer l'inverse de ces idées toutes faites et de montrer tout le potentiel justement que ça a.
Et vous êtes là et vous continuerai. Merci beaucoup, Claude Grison, de nous avoir expliqué tout ce que vous faites. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2025. Est-ce que vous vouliez mettre en avant une actualité ?
Oui, je peux en profiter pour passer peut-être un petit message personnel, puisque j'ai aussi la chance de bénéficier de la chaire Avenir commun durable au Collège de France, que je vais démarrer début 2026, où je vais parler de tout ce que je viens d'exposer dans le détail. Et évidemment, tous les curieux de sciences sont les bienvenus.
Et ça sera retransmis, enregistré peut-être
aussi,
je
également.
Crois bien.
Oui.
Comme ça, tout le monde pourra écouter, même les personnes qui ne sont pas à Paris. Et moi, de mon côté, je signale que la Cité des sciences à Paris propose une exposition sur la bio-inspiration. Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, on mettra les liens sur la page de notre émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.